France Inter, le 18-20.
Une semaine en France en compagnie ce soir de Mathieu Ricard, moine bouddhiste, auteur, traducteur, photographe. Il publie trois livres, Émerveillement, aux éditions de La Martinière, un superbe livre de photos prises lors de ses voyages. Il y a aussi Contemplation, un autre livre avec des images en noir et blanc. Mathieu Ricard publie également avec plusieurs co-auteurs aux éditions L'Iconoclaste, Prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature. Tout un programme qu'il s'efforce de mettre en œuvre depuis près de 50 ans, depuis qu'il s'est installé au pied de l'Himalaya, lui, le brillant chercheur de l'Institut Pasteur, spécialisé en génétique cellulaire. On parlera évidemment avec lui de ce parcours si particulier, de la méditation et de ses bienfaits. On parlera aussi des animaux pour lesquels il a pris fait et cause depuis longtemps déjà. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Juliette Medevielle, l'actualité de la semaine comme tous les vendredis et les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, rediffusion d'un reportage qui vous avait tous interpellé sur Peyo, ce cheval qui va jusque dans les chambres d'hôpital au chevet des malades en fin de vie. À 19h20 au téléphone sonne, faut-il désobéir pour se faire entendre? On s'interrogera sur les nouvelles formes d'action, comme celle du groupe Extinction Rébellion ou celle des décrocheurs qui tentent d'interpeller autrement sur le changement climatique. On se demandera s'il s'agit vraiment de désobéissance civile et si tout cela est bien nouveau. Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Mathieu Ricard.
Et bonsoir.
Un très grand merci d'être là, on est ravis de vous recevoir.
C'est un plaisir.
Très sympa d'être avec nous jusqu'à 19h, parce qu'après cette semaine, on va dire, de crispation qu'on vient de vivre ici en France, on a besoin de quelqu'un comme vous pour nous apaiser.
Ah, c'est trop gentil.
Eh bien si. Alors vous êtes, faut-il vous présenter, le moine bouddhiste le plus connu ici en France. Mais pour commencer, j'ai envie de dire que ce soir, on reçoit avant tout le photographe Mathieu Ricard, parce que vous êtes photographe et vous publiez aux éditions de La Martinière un magnifique livre de photos que vous avez prises en différents endroits du monde, en Islande, au Chili, en Argentine, en Corée, à La Réunion. Ça s'appelle Émerveillement. Pourquoi Mathieu Ricard ce choix?
Alors en fait, j'ai photographié l'Himalaya pendant un demi-siècle, donc c'est un petit peu ma niche, je dirais, photographique. Mais j'ai aussi beaucoup voyagé à l'occasion de conférences que je fais de moins en moins. Et à chaque fois que je vais quelque part, j'essaie de m'échapper avec quelques amis pour aller voir la nature sauvage. Mais évidemment, voilà, j'aime beaucoup l'Islande, je suis fasciné par l'extraordinaire beauté de ces lumières et de ces paysages, mais faire un livre sur l'Islande avec un texte, ça n'est pas un sens immédiat, disons. Par contre, je me suis retrouvé justement dans un de ces lieux extraordinaires et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis là à cause de l'émerveillement face à la nature, sentiment d'harmonie, d'interdépendance, quelque chose de plus vaste que nous, qui mérite d'être respecté et préservé. Je me suis dit, voilà un beau thème qui permettra aussi de réunir des images sur les 5 continents que j'ai eu l'occasion de faire autour de ce thème, autour de notre engagement pour la protection de cet environnement.
Alors, certaines prises au plus près du sol, certaines prises de très loin, certaines vues du ciel même, hein, y a de tout.
Alors l'émerveillement, c'est l'émerveillement de l'immensité, parce que l'émerveillement déjà agrandit notre esprit en tant qu'expérience subjective. Il dépasse le sentiment étriqué du moi, il renforce le sentiment d'interdépendance, d'appartenance à notre humanité commune, notre sentience commune avec les 8 millions d'autres espèces qui sont nos concitoyens en ce monde, mais c'est aussi l'émerveillement des dédales dans une écorce, l'émerveillement d'un flocon de neige qui tombe sur votre main, de l'odeur d'une prairie humide après un orage. Donc ça peut être des petites fourmis qui se promènent dans la mousse. Donc l'émerveillement, c'est tout ça.
Et c'est une façon de nous dire qu'on oublie peut-être de temps en temps de nous émerveiller, qu'on a tort.
C'est très simple de s'émerveiller pour la santé mentale et physique. Beaucoup d'études ont montré que les enfants qui sont exposés à la nature et qui s'émerveillent sont plus créatifs pour résoudre des problèmes, et que la privation de nature pour les enfants est très délétère pour leur développement psychologique et même pour leur santé.
C'est une vieille passion, la photo, pour vous, Mathieu?
Oui, alors j'ai commencé à l'âge de 13 ans, j'ai un petit appareil assez minable, mais voilà, donc je photographiais des flaques d'eau, des reflets dans les mares, des feuilles mortes. On me disait, Mathieu, c'est pas la peine de compter sur lui pour les photos de vacances. On dit toujours ça d'ailleurs, 60 ans plus tard, mais voilà, donc j'ai poursuivi ma passion.
C'est quoi une photo réussie, Mathieu Ricard?
Pour moi, quand je regarde les, je peux parler des miennes, bien sûr, mais quand je regarde la photo d'un photographe que j'admire, c'est une photo devant laquelle je passe 5 minutes à m'imbiber de la beauté qui pénètre en moi comme la pluie pénètre dans la terre sèche et qui modifie mon regard, mon état intérieur et qui m'émerveille.
Je crois que vous avez eu l'occasion de rencontrer Henri Cartier-Bresson
à
une époque, et qui vous disait « on ne prend pas des photos, ce sont elles qui vous prennent ».
Oui, c'est magnifique. Et c'est vrai que moi, quand je suis dans la nature, des fois, je dis « mais pourquoi tu ne prends pas des photos ?» Je dis « bah non, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas ce qu'il faut ». Puis à un moment donné, crac, ça s'impose. Attention, là, arrêtons-nous. Et là, il y a un moment qui dure, parfois, la lumière, ça ne reste pas longtemps. Ça dure 5-10 minutes. Et donc, on est tout à fait entièrement devant essayer de traduire ce qu'on voit en images et ensuite de le partager avec ceux qui poseront leur regard sur ces images.
Alors, il y a émerveillement, on a envie de dire waouh à chaque page parce que c'est vraiment assez incroyable. Il y a aussi contemplation. C'est des images en noir et blanc là qui ont été présentées lors des rencontres de la photographie d'Arles, je crois.
Oui, alors c'était un peu un pari pour un photographe qui travaille en couleur, mais c'était une idée de faire ça sur un très bon papier japonais, des tirages immenses d'1m80, dans un local réalisé par un architecte colombien, Simon Vélez, en bambou. C'était 1000m² en bambou. D'ailleurs, il faisait très bon dans cette... alors qu'il faisait très chaud à Arles, il y avait un peu de fraîcheur. Et donc, c'était vraiment un endroit contemplatif. Et le noir et blanc, si vous voulez, de traduire des photos en noir et blanc, un peu comme on travaillait à l'époque en chambre noire, ça a été aussi une découverte pour moi. Certaines images prenaient un relief tout à fait différent. D'autres, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, j'ai revisité tranquillement sur un an ma collection. Et pour sortir, c'est une cinquantaine d'images qui vraiment prenaient une autre vie avec le noir et blanc.
Petite précision importante, Mathieu Ricard, ces livres, comme tous les autres, les droits d'auteur vont à la fondation que vous avez créée.
Donc, Karuna Sechen, créée il y a 20 ans. Qui aujourd'hui aide, l'année dernière, nous avons aidé 380 000 personnes en Inde, au Népal et au Tibet. Alors parfois, les gens ils disent « regardez comme il est hilare, il s'en met plein les poches ». Eh bien, ces poches, elles se vident très vite. Et
pour la bonne cause, qu'est-ce que vous faites vous créez des cliniques, des écoles, c'est ça?
Alors,
on fait des écoles,
on fait la alphabétisation des femmes, on fait des ponts, on fait de l'énergie solaire, des interventions sociales. On traite environ 150 000 patients par an dans 25 cliniques dispensaires que nous avons créé au Tibet, en Inde et au Népal. Et donc, il y a 200 personnes qui travaillent sur place. Et puis, toute une flopée de volontaires extraordinaires, de personnes qui sont ici en France, aux États-Unis, à Hong Kong, au Canada, qui essaient de nous aider à trouver des ressources. Donc, il y a un très beau site que vous pouvez visiter, karuna-sechen.org. Et vous pouvez nous aider. Nous avons bien besoin d'aide pour aider les autres.
Voilà, c'est pour la bonne cause. N'hésitez pas à vous procurer ces magnifiques livres de photos. Un mot du choix de photographier la nature, Mathieu Ricard. Vous nous l'avez dit, hein, c'est aussi une façon de rappeler sa fragilité.
Alors, j'ai beaucoup photographié les maîtres spirituels, les enfants. J'ai fait un livre sur 108 sourires. Mais cette fois-ci, c'était vraiment la part sauvage du monde, comme dit la philosophe Virginie Maris. Parce que effectivement, quand on vit dans l'Himalaya notamment, et sur 50 ans, on a vu l'Himalaya noircir en gros, que les glaces au Tibet, l'hiver, on passait pendant 3 mois avec des animaux et des camions, maintenant c'est 3 semaines. Donc si vous voulez, l'urgence, c'est le grand défi du 21e siècle, il n'y a aucun doute. Tous les autres défis pâlissent en côté de ce défi-là.
Mais il y a une vraie prise de conscience actuellement quand même.
Il y a une prise de conscience, ça a considérablement changé, mais souvent on est un tout petit peu quand même submergé. Alors, il faut écouter les scientifiques. Première priorité. Et ça, au lieu que les hommes politiques les considèrent comme des empêcheurs de tourner en rond, ils doivent les écouter. C'est eux qui devraient, en fait, diriger les politiques. Ceci dit, il faut aussi inspirer de manière positive. Et donc, l'émerveillement mène au respect. Vous respectez ce que vous émerveillez. Vous n'allez pas le piétiner, le saccager, l'ignorer, le mépriser. Le respect mène à quoi? Le désir de prendre soin. Prendre soin, l'action. Et c'est là, il faut se mettre au service de la nature.
Et le fait que la jeunesse se mobilise aujourd'hui, c'est quelque chose qui
c'est formidable.
Vous enchante.
Alors, franchement, ces intellectuels et autres qui décrivent des gens comme Greta Thunberg, c'est vraiment nul. Parce que quand elle dit aux Nations Unies, droit dans les yeux, aux chefs d'État, il faut avoir quand même un peu de culot, vous trahissez les générations à venir. Mais c'est exactement correct, parce que les générations à venir diront, vous saviez et pourtant vous n'avez rien fait, ou vous avez fait semblant de ne pas savoir, ce qui est bien pire. Donc le futur ne fait pas mal, du moins pas encore, mais il va faire très mal si on ne fait rien.
Voilà, et je rappelle que tout à l'heure on fera un téléphone sonne sur les nouvelles formes de mobilisation justement en faveur du climat, et que vous pouvez nous appeler au standard de France Inter pour en parler au 01 45 24 7000. On poursuivra évidemment tout à l'heure, Mathieu Ricard, la réflexion avec vous, mais on va passer comme tous les vendredis à l'actualité de la semaine, actualité française. Je le précise, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Hélène Bizio cette semaine en France, nouvel accès de fièvre à propos du voile.
Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. C'est la loi de la République, pas de signe ostentatoire.
Bon, ça y est, vous êtes calmé. Il n'y a aucune raison que cette personne sorte.
C'était vendredi dernier au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Un élu RN demande à une maman qui accompagne un groupe d'enfants de se découvrir. Et voilà relancer ce débat qui électrise la société française depuis 30 ans avec des désaccords au sein du gouvernement.
Je n'ai pas de difficulté à ce qu'une femme voilée participe à une sortie scolaire.
Le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement.
La porte-parole du gouvernement et le ministre de l'Éducation ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors l'affaire s'invite à l'Assemblée, où le Premier ministre vient rappeler la loi, tout simplement.
On peut porter, monsieur le député, vous le savez, un voile quand on accompagne une sortie scolaire.
Rappel de la loi et de certaines réalités également par la voix du coprésident de la FCPE, Rodrigo Arenas.
Dans certaines écoles et certains établissements, les seules mamans qui sont disponibles pour pouvoir faire en sorte que les sorties se fassent, ce sont précisément ces mamans qui portent un fichu sur la tête.
Sans parents, pas de sortie scolaire, car l'école n'a pas le personnel pour les encadrer. Elle est à l'os, comme bien d'autres services publics, à commencer par les hôpitaux qui n'en peuvent plus de crier misère. Leurs personnels sont encore descendus dans la rue pour le dire cette semaine.
Je pense à un de mes patients qui était extrêmement âgé, qui venait pour une fracture du col du fémur, qui a dû attendre 24 heures au sein des urgences parce qu'il n'y avait pas de lit en chirurgie.
On ne peut plus faire.
Les pompiers dans la rue, eux aussi, pour dire leur colère. Car figurez-vous que leur métier n'est pas considéré comme à risque.
On n'a pas de prime de dangerosité. On a une prime de feu qui est à 18%. C'est une histoire d'être reconnu. On n'est pas assez nombreux. On est victime du rendement. Comment vous voulez faire de la qualité à la personne ?
Il y a même eu des échauffourées avec les policiers en fin de cortège.
Et maintenant, si je te disais qu'on a gagné 1 million d'euros, qu'est-ce que tu ferais ?
Oh là, faut faire fort, hein !
Plus d'argent dans les caisses de l'État. Alors le gouvernement lance la privatisation de la Française des Jeux.
Je souhaite que ce soit une opération populaire. Que les Français participent le plus largement possible à cette privatisation.
Et vous, êtes-vous prêt ?
Une bonne affaire, dit Bruno Le Maire.
Il y aura une action gratuite pour 10 actions que vous aurez achetées.
Il y a une justice quand même, hein ?
Nouveau loto, la chance appartient à tout le monde. Française
des Jeux. Chez Conforama, où des dizaines de magasins vont fermer, pas de gros lot pour ceux qui vont perdre leur emploi. Ce sera 1000 euros pour 10 ans d'ancienneté et 2000 euros jusqu'à 20 ans.
Voilà comment on est remercié avec des indemnités qui frisent le ridicule. Donc qu'ils veuillent nous foutre dehors, c'est une chose, mais qu'ils le fassent au moins dignement.
Une Française prix Nobel d'économie, Esther Duflo partage ce prix avec deux chercheurs avec lesquels elle travaille sur la pauvreté depuis des années.
Ça va nous donner encore plus d'énergie et encore plus de vent dans nos voiles pour faire mieux.
Déjà 300 000 déplacés dans le nord-est de la Syrie depuis le début de l'offensive turque contre les Kurdes. En France, ils manifestent un peu partout.
Les Kurdes, c'est quand même 40 millions de personnes sans État. C'est quand même énorme. Et les Kurdes qui se battent contre la barbarie, l'égalité homme-femme.
Ils meurent pour nous en fait. Et c'est les Kurdes qui combattent Daesh. Ils meurent pour le monde entier en fait. Ils veulent quoi ? Ils veulent juste vivre en paix, c'est tout. Nous on a de la chance d'être en France, on a de la chance d'être en Europe. Eux ils ont pas de chance.
Et encore merci à Hélène Biziot. Une semaine en France, toujours en compagnie du moine bouddhiste Mathieu Ricard. Je ne sais pas ce que vous avez retenu de ce petit...
J'admire beaucoup le travail d'Esther Duflo. J'ai eu l'occasion de la rencontrer une fois. Parce qu'elle a vraiment diagnostiqué... la pauvreté a été beaucoup étudiée. Mais elle a vraiment diagnostiqué sur le terrain, à long terme, un peu comme un médecin. Et il y a des centaines de paramètres pour la pauvreté. Il y a encore quand même 750 millions de personnes dans le monde qui sont sous le seuil de la pauvreté. Et l'idée, ça serait qu'il n'y en ait plus un seul dans 20 ans, si possible.
Sur l'état de la France, Mathieu Ricard, vous qui vivez loin, quand vous revenez, quel regard vous portez sur notre pays, sur ses crispations ? Il paraît qu'on est un des pays les plus pessimistes au monde. Comment vous expliquez ça ?
C'est difficile. Alors moi, j'ai un ami qui étudie un peu le bien-être et qui disait, en fait, il faudrait étudier des marqueurs biologiques parce qu'il pense en fait que les Français sont plus heureux que ce qu'ils veulent bien le dire. C'est un peu des grincheux, mais en même temps, ils ont pas tellement de raison.
Ils sont heureux dans leur vie privée, ils sont malheureux collectivement. C'est ce qu'on nous explique.
Écoutez, quand même, moi je vis au Népal, en Inde, alors là il n'y a pas d'allocation familiale, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'allocation chômage. J'ai emmené ma chère maman à l'époque, elle avait 93 ans, au CHU de Périgueux, une petite carte verte qu'on donne au début, puis trois jours plus tard, on sort, on dit non, ça vous pouvez partir. C'est quand même extraordinaire, cet état-providence, il ne faut pas en abuser. Bien sûr, mais c'est quand même formidable par rapport à tant de pays où si vous n'avez pas d'argent, vous ne rentrez pas à l'hôpital, vous pouvez mourir à la porte.
Voilà, il faudrait qu'on se rende compte un petit peu de notre chance. Vous plaidez, Mathieu Ricard, depuis longtemps pour l'amour altruiste. On devrait faire quoi ? De la méditation pour plus de bienveillance, pour mieux vivre ensemble ?
Pour peut-être démystifier un petit peu, l'altruisme et la bienveillance et la compassion pour ceux qui souffrent sont des qualités humaines dont nous avons tous le potentiel. C'est-à-dire nous l'avons. Nous partons pas du tout du même point de départ. Il y en a qui ont plus ou moins cette capacité, ce trait de tempérament. Mais comme toutes les qualités, que ça soit d'apprendre à lire, à écrire, l'attention ou l'altruisme, c'est des choses qui peuvent se cultiver. Alors, les traditions contemplatives, comme le bouddhisme et bien d'autres, le savent depuis 2500 ans. Et les neurosciences sont tout à fait d'accord avec ce point de vue. Ça fait 25 ans maintenant que je collabore avec des neuroscientifiques, ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité que le cerveau a de se transformer lorsqu'on entraîne notre esprit. Et ces travaux ont bien montré qu'effectivement, en 2 ou 3 mois, nous pouvions augmenter nos comportements prosociaux, altruistes, en cultivant cette bienveillance 10-15 minutes par jour.
Et on peut s'y mettre à tout âge ?
Bien sûr, et la neuroplasticité, on a montré que jusqu'à la mort, notre cerveau peut changer. Il y a 30 ans, on pensait que ce n'était pas le cas. On pensait qu'après l'âge adulte, le cerveau était si complexe que si on commençait à changer quelque chose, c'était le bazar. En fait, non. Toute forme d'entraînement, ça peut être un entraînement négatif d'ailleurs, par exemple à se désensibiliser à la souffrance d'autrui. Mais un entraînement constructif, comme l'altruisme, comme la bienveillance, comme la force d'âme, comme la résilience, sont des qualités dont nous avons la capacité, comme encore une fois de jouer aux échecs ou de jongler ou de lire et écrire, mais qui vont rester dormantes ou disons à leur minimum et certainement pas à leur point optimal si nous n'entraînons pas notre esprit. Donc ça, bien sûr, le bouddhisme s'est fait un tout petit peu une sorte de spécialité d'entraîner l'esprit, mais ce n'est nullement l'apanage du bouddhisme. Et en plus, c'est des techniques qui peuvent être utilisées dans un contexte complètement séculier et laïque, bien sûr, parce qu'on a tous un esprit auquel on a affaire du matin au soir. Ça peut être notre meilleur ami ou notre pire ennemi, comme on le voit dans la dépression et autres troubles mentaux.
On peut réduire le stress, l'anxiété, ralentir le vieillissement.
Oui, alors c'est pas seulement pour le bien-être, etc. Pour moi, enfin, de mon humble point de vue, et vu tous les enseignements que j'ai reçus de mes maîtres spirituels, c'est vraiment pour devenir un meilleur être humain et dans le but de se mettre au service de la société. Donc c'est pas du tout une sorte de démarche individualisme, dans la bulle de l'égocentrisme narcissique. C'est vraiment destiné à être une meilleure personne dans une meilleure société.
Donc on devrait prescrire ça à tout le monde, la sécurité sociale
devrait
s'en occuper.
Je ne vois pas en quoi, dans une école, on pourrait... Si vous dites aux parents, on va faire de la méditation, ils diront non, attention, c'est pas laïque, etc. Mais si on dit, on va augmenter, favoriser leur intelligence émotionnelle, leur attention. William James, le fondateur de la psychologie moderne, disait, si on pouvait cultiver l'attention, ça serait l'éducation par excellence. Si on augmente leurs comportements prosociaux, alors les éducateurs, les parents, mais c'est formidable ça, comment est-ce que vous faites ça? Donc en fait, c'est ça l'entraînement de l'esprit.
J'ai lu quelque part que vous auriez dit qu'avant vous étiez introverti et bougon. Et là, on se pince pour le croire.
C'est ce que disaient les personnes qui m'ont connu quand j'avais 15-16 ans.
Mathieu Ricard, sérieusement?
Il est dans ses bouquins, il part jouer au foot, mais à part ça, voilà, il est... C'est pas un mec sympa, quoi, disons.
Votre dernière colère, j'ai vu ça, c'était il y a très longtemps.
Oui, alors,
au bout de temps, vous aviez acheté votre premier ordinateur, c'est ça, Mathieu Ricard ?
Oui, alors, premier ordinateur, j'avais pas de sous. Donc, j'étais là, assis par terre dans un coin du monastère. Et puis, il y a un moine qui passe, un ami, d'ailleurs, on servait notre maître spirituel. Puis, il avait à la main de la farine d'orge grillée. Et puis, il en saupoudre mon clavier. C'est pas ce que c'était. Il trouve ça très drôle. Alors, la montarde m'est montée au nez. Bon, ça, c'est vrai. Et après, il m'a dit « Ah, tu t'es mis en colère !»
Ça a été la dernière.
Non, ben non, des fois on est un peu irrité, mais enfin disons, ça c'était les colères qui vous montent au nez, c'est vrai que bon, c'est une dont je me souviens.
Alors aujourd'hui, Mathieu Ricard, vous vivez au Népal?
Principalement.
Hein, monastère de Chechen, on dit ça comme ça. Quel est le programme là-bas? Méditation?
Pas vraiment, en fait, la méditation...
C'est plutôt quand vous partez en montagne, après, dans votre
la méditation, c'est quelque chose qu'on fait plutôt en retraite. Là, les moines, il y a un collège philosophique, ils font 9 ans d'études philosophiques. Il y a aussi une école pour les jeunes novices, on leur apprend à lire et écrire. Il y a un curriculum avec des sciences, avec tout ce qu'il faut, comme si on allait à l'école. Il y a une école d'art, 6 ans d'études pour apprendre la peinture. Les moines apprennent la danse sacrée, la musique sacrée. Et puis, nous avons un centre de retraite dans la montagne, où là, c'est vraiment la vie contemplative. Donc il y a toutes sortes et puis les activités humanitaires au travers de Karuna Sechen.
Et comment vous conciliez cette vie somme toute assez simple là-bas et puis votre vie sociale avec tous ces voyages, les réseaux sociaux et puis tout le reste?
Alors franchement, bon, il y a deux choses principales. L'une, c'est au fil des années quand même de trouver les moyens et puis motiver, chercher des amis qui peuvent nous aider à réaliser ces projets humanitaires, parce que quand même chaque année c'est assez lourd, disons au point de vue financier, pour pouvoir aider ces 300 000 personnes. Et puis aussi, bon, puisque à partir de 1997, quand j'ai fait ce livre d'entretien avec mon père Jean-François Revel, le moine philosophe, bon, on m'a demandé de venir à droite à gauche, j'ai fait d'autres livres. Donc c'est vrai, il y a des idées qui me sont très chères, parce que je pense qu'elles peuvent être utiles. Je n'ai rien inventé, ça je peux vous le dire tout de suite. Simplement, l'ensemble, cette réunion de la sagesse que j'ai entendu auprès de mes maîtres spirituels, avec la vie intellectuelle et scientifique, et la rigueur, le goût de la rigueur scientifique que j'avais acquis à l'Institut Pasteur. Bon, ce petit mélange fait que j'ai joie à partager certaines idées. Et puis, si vous me demandez de venir, ben j'accepte.
Ah bah oui, nous on
si
est contents.
Si vous ne me demandez pas de venir, je reste tranquillement assis sur mon derrière dans mon ermitage. En fait, voilà.
Vous avez trouvé l'équilibre, c'est ça.
Alors, évidemment, faut pas en faire trop, parce que si on fait le clown à droite à gauche, ça fait un peu beaucoup. On parle tout le temps le moine hyper médiatisé. Moi, en fait, franchement, je ne recherche pas ce genre de choses, mais je suis toujours heureux de partager des idées qui me sont chères.
Voilà. Et puis, on va donner le titre d'un autre livre que vous sortez, parce que j'ai dit qu'il y en avait 3 là, en ce moment, puisque c'est toujours pour la bonne cause. Il y a donc aussi Prendre soin de la vie, de soi, des autres et de la nature. Ça, c'est aux éditions L'Iconoclaste, et vous êtes plusieurs co-auteurs, à avoir écrit ce livre qui sortira à la fin du mois. On va parler, Mathieu Ricard, dans un instant de votre parcours. Le temps d'écouter Stéphane Escher, Prisonnière.
Oh mais c'est encore vous mon cher. Oh mais c'est encore vous mon cher. Me dit-elle tout à coup, me dit-elle tout à coup. Oh, je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous, faites de moi ce que vous. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Lavons-nous de la boue, lavons-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions tout, et oublions tout. Et tenons-nous debout dans la lumière. Et tenons-nous debout dans la lumière. Soyons prêts à tout, soyons prêts à tout. Il en va de la vie de nos mères. Il en va de la vie de nos pères. Il en va de nous, il en va de nous. Je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous.
Prisonnière, Stéphane Escher, une chanson sélectionnée pour vous par Djoubaka.
France Inter,
le 18-20. Une semaine en France.
En compagnie ce soir de Mathieu Ricard, on va parler de vous maintenant, plus précisément de votre parcours, Mathieu Ricard. Bah oui, c'est toujours comme ça dans cette émission à cette heure-ci. Votre parcours, il est quand même assez exceptionnel parce que aujourd'hui, vous vivez dans une forme de dénuement volontairement depuis un demi-siècle.
Simplicité heureuse.
Voilà, on va dire
c'est
ça.
Pas un dénuement morose.
C'est quand même aux antipodes de votre milieu d'origine. On peut dire ça. Vous avez quand même grandi dans un milieu privilégié. Vous avez
au début non. Au début, mes parents avaient pas mal de difficultés, comme mon père était prof et ma mère peintre.
En tout cas, c'est un milieu intellectuel.
Oui, ça c'est d'accord.
Papa, vous l'avez dit, philosophe, journaliste, académicien, Jean-François Revel. Maman, artiste peintre. Toujours en vie, maman.
96 ans.
Vous êtes un jeune homme de 73 ans.
Bientôt 74.
Mathieu Ricard, vous avez fait vos études au lycée Jean-Saëns de Sailly à Paris. Ensuite, vous êtes devenu chercheur à l'Institut Pasteur, chercheur en génétique cellulaire.
Ah, c'était un peu un quiproquo parce que d'abord, François Jacob venait d'avoir le prix Nobel. Il avait un tout petit labo, on s'imagine des grands labos, il avait 3 pièces. Donc il avait un poste de jeune chercheur, et il avait entendu dire par un ami commun que je construisais un clavecin. Ce qui n'était pas tout à fait vrai, j'avais l'idée d'acheter un clavecin et finalement je n'ai pas acheté. Il m'a dit, bon, bah, celui-là il doit être bon, il m'a pris. Et ça a été très bien, j'ai passé 6 ans à Pasteur, j'ai beaucoup d'admiration pour François Jacob, il m'a appris le goût de la rigueur scientifique. Et donc, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé des trucs un peu tout de suite, donc j'ai fait ma thèse d'état assez vite. Et pendant ce temps-là, tous les ans, j'allais l'été à Darjeeling, auprès de Kangyur Rinpoche, qui était un grand maître tibétain qui avait fui avec sa famille l'invasion chinoise du Tibet. Et là, bon, au lieu de voir, si vous voulez, des grands génies de la musique, de la littérature, de la science, des explorateurs, qui tous avaient des qualités formidables dans leur domaine, mais j'avais du mal à trouver un modèle de vie. Or, en rencontrant ces sages, hommes et femmes, dans l'Himalaya, ça aurait pu être ailleurs, mais enfin, c'est là où moi je les ai rencontrés, c'était pas des personnes dont forcément je voulais savoir tout ce qu'ils savaient, parce que je savais pas trop en quoi consistait le bouddhisme à l'époque. Je l'ai appris un peu plus tard. Mais je me disais, voilà, si un être humain peut devenir comme ça, là, il y a quelque chose pour moi, c'est qu'est-ce qui est au bout du chemin? Donc un vrai maître spirituel, c'est pas quelqu'un qui essaie de vous contrôler, c'est quelqu'un qui a rien à perdre, rien à gagner, mais qui, en gros, vous montre ce qui est possible dans l'existence, qui vous montre comme une lumière sur le chemin que vous avez vous-même à parcourir, bien sûr. Mais c'est inestimable, et donc ça a vraiment changé l'orientation de ma vie, et j'ai décidé donc à la fin de ma thèse d'aller m'établir là-bas.
Voilà, vous ne trouviez pas les réponses aux questions que vous vous posiez dans la science, vous les avez trouvées dans le bouddhisme, on va dire
ça. Si, je trouvais des réponses, la science est passionnante, je continue à m'y intéresser, je continue à collaborer avec des scientifiques, simplement je me dis qu'il avait là une dimension supplémentaire, que de voir vraiment ce qui comptait vraiment, vraiment dans l'existence, et que ces maîtres spirituels me donnait tout ce qu'il fallait pour progresser à mon humble chemin. J'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais au moins, j'ai l'impression que chaque minute vaut la peine d'être vécue dans cette direction.
Alors, vous êtes allé vous installer là-bas.
Oui.
Vous êtes devenu moine.
Quelques années plus tard.
Voilà, quelques années plus tard. Vous avez rencontré le Dalai Lama. Et puis, vous êtes devenu son interprète.
Alors, en fait, ça s'est
pour
fait
le français.
Mon premier maître spirituel, au bout de 7 ans que j'étais là-bas, a quitté le monde. Mon deuxième maître était un maître extrêmement respecté en Inde et qui était un des maîtres du Dalai Lama. Donc il allait tous les ans à Dharamsala pendant 10 jours pour offrir des enseignements au Dalai Lama à sa demande. Et moi je l'accompagnais, j'étais un des 2 ou 3 personnes qui étaient toujours avec lui. Et donc je suis venu un peu une sorte d'intimité auprès du Dalai Lama. Et quand il est venu en France juste après le prix Nobel, et moi je me trouvais en France par hasard, et qu'il fallait traduire du tibétain en anglais, de l'anglais en français, il m'a dit, bah, t'es là, traduis. Donc, du jour au lendemain, je suis devenu son interprète pour la langue française.
Comment il va, le Dalai Lama?
Alors, il a 84 ans, il voyage beaucoup moins, il va bien, mais il a bien raison de se ménager. Après avoir parcouru le monde inlassablement au service des autres, il voyage un peu moins.
Le bouddhisme, Mathieu Ricard, religion ou philosophie? Je vous pose cette question parce que dans le livre que vous avez écrit avec votre père, cette question, elle revient souvent et vous dites... Le bouddhisme, c'est une voie, V-O-I-E.
Oui, parce que, si vous voulez, bon, comme dit le Dalai Lama, les philosophes disent non, c'est une religion. Les religions disent non, c'est une philosophie. Donc, pauvre bouddhiste, il se retrouve nulle part. Et le lama dit, ça peut peut-être faire qu'il constitue un pont entre tout cela. Qu'est-ce que c'est le bouddhisme? C'est effectivement un chemin, une voie de transformation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, voie de transformation? C'est passer de la souffrance à la libération de la souffrance. Donc, principalement, le bouddhisme diagnostique les causes de la souffrance et essaie d'y remédier. Bon, il s'est fixé ça comme but. autre aspect principal du bouddhisme, il essaie de combler le fossé entre les apparences et la réalité, c'est-à-dire une investigation, qu'est-ce que c'est que la nature de la réalité? Quelle est la nature de notre esprit? Donc c'est quelque chose de finalement très, je dirais, presque empirique. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas d'opposition fondamentale entre une démarche scientifique et le bouddhisme. C'est une science de l'esprit, quoique certains disent que ce n'est pas le cas, mais si, il me semble que c'est cela. Ce n'est pas une religion théiste. Il y a des aspects religieux, bien sûr, des rituels, etc., mais ils sont tous reliés à une forme de méditation.
Je voudrais qu'on dise un petit mot d'un de vos engagements, Mathieu Ricard, la cause animale. Vous avez publié il y a quelques années un plaidoyer pour les animaux et vous continuez à militer pour les animaux.
Oui, alors c'est vrai que si on songe qu'il y a des estimations qui disent qu'il y avait environ 120 milliards d'Homo sapiens depuis que nous existions sur Terre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 10 000 ans, on était 5 millions, donc pas beaucoup de moins. Et c'est le nombre d'animaux qu'on tue tous les deux mois, comme si de rien n'était, toute l'année, pendant au fil des années. Donc c'est quand même beaucoup de morts et beaucoup d'animaux.
C'est ce que vous appelez un zoocide ?
Oui, un zoocide. Alors évidemment, tout le monde m'est tombé dessus. Alors que j'ai pris toutes les précautions du monde, j'ai consulté des spécialistes des génocides. J'ai dit que c'était évidemment différent, mais qu'il y avait des choses similaires. Le massacre en masse, séparer les mères des petits. Mais là, c'est pas un génocide, puisqu'on essaie de les reproduire indéfiniment pour les tuer encore et encore. Donc là, il y a un vrai problème, si vous voulez, de cohérence éthique. Nous avons fait d'immenses progrès sur le respect de la personne humaine, droits de l'homme, abolition de la torture, de l'esclavage. Mais en ce qui concerne les autres espèces, les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde, en gros, c'est un petit peu nous sommes tout, ils sommes rien. Et il y a quand même, il faut citer une image, c'est que la vie existe depuis 3 milliards et demi d'années. Si vous passez ça en 24 heures, l'espèce humaine est apparue dans les 5 dernières secondes. Donc, il ne faut pas trop se prendre la tête en disant nous sommes les rois de l'univers, l'univers est entièrement à notre disposition, un peu de modestie et de respect des autres formes de vie.
D'où ça vient, Mathieu Ricard, tout ça? C'est la pensée judéo-chrétienne qui nous a conduit à ça?
Il y a toutes sortes de choses. Alors, il y a des gens qui ont analysé ça. Au temps des chasseurs-cueilleurs, les animaux n'étaient pas considérés comme inférieurs, mais comme différents. Parce que le jaguar, on le respecte. D'abord, il peut vous bouffer déjà. Et donc, c'est au moment où on a commencé, il y a 12 000 ans environ, à se sédentariser, à domestiquer les animaux. Donc, des animaux qu'on connaissait personnellement, individuellement. Et puis, un jour, faut tuer Blanchette. Donc, il fallait trouver une excuse parce qu'on ne veut pas se dire « je suis une mauvaise personne ». Donc, soit elles n'ont pas d'âme, soit elles ont été créées pour nous, soit elles ne sentent pas la douleur. Toutes sortes de mauvaises excuses pour pouvoir continuer à faire cela. Il y a une dissonance cognitive qui s'est accentuée avec l'élevage industriel qui est devenu une sorte d'enfer pour les animaux, il faut bien dire.
Mais il y a des gens qui militent contre tout ça en ce moment. On a une rubrique, Mathieu Ricard, dans cette émission, qui va vous plaire, parce que ça s'appelle Les Bonnes Ondes. C'est toujours des nouvelles positives. C'est Sandrine Houdin. Elle vient de rentrer dans ce studio.
Formidable.
Bonsoir, Sandrine. Et ce soir, puisque vous êtes là, Mathieu Ricard, eh bien, on va rediffuser un reportage qui avait surpris et fasciné nos auditeurs, et puis nous aussi, d'ailleurs, faut bien le dire. C'est l'histoire d'un cheval qui s'appelle Peyo, un cheval qui a fait du spectacle à une époque, mais qui aujourd'hui se rend au chevet des malades dans les hôpitaux. C'est très sérieux. Alors dites-nous, Sandrine, comment tout a commencé?
Et au moment de la séance photo, par exemple, à la fin des spectacles, Peyo allait toujours se coller au même type de spectateurs. Des personnes âgées mal en point, des enfants malades, des personnes souffrant d'un handicap, même invisible, jusqu'à poser sa tête sur des zones touché par un cancer. Son dresseur s'est dit, c'est pas possible, là il y a un truc. Et alors il a réussi à convaincre certains hôpitaux de tester son cheval auprès des malades.
Et alors?
Alors, à son contact, tenez-vous bien, une malade d'Alzheimer retrouve tout d'un coup des souvenirs. Un patient qui ne se levait plus depuis 2 ans se remet à marcher et à prendre l'escalier. Une femme âgée qui ne parlait plus que le hongrois retrouve un français parfait, quel que soit le service. Partout les mêmes progrès.
Et ça paraît incroyable.
Même les médecins étaient sceptiques, maintenant ils le réclament. Ils l'ont même baptisé Docteur Peyo.
Alors partons à la rencontre de Docteur Peyo. Pour cela, direction le centre hospitalier de Calais, dans l'unité de soins palliatifs, où le cheval arrive à détecter le patient dont il faut s'occuper le plus rapidement possible, avant même l'équipe médicale.
Hassen passe 2 heures à préparer son cheval. Le protocole sanitaire est évidemment super strict.
Peyo donc est tondu, déparasité, tressé, champouiné. Les pieds sont désinfectés, bien sûr. Et puis le gros du travail pendant 2 ans a été de lui apprendre à faire ses besoins sur commande, comme un chien. Sans ça, il était impossible de rentrer à liquider dans un centre de santé.
Avant d'arriver, vous dites pipi crottin et il fait.
Exactement.
Peyo, comme arrière.
Ascenseur. L'ascenseur, l'escalier, le carrelage, le lino sous les sabots, les talons a pris l'habitude.
Bonjour, Peyo. Non, non, j'ai rien à manger. Alors, tu veux aller voir qui ? Hein ? On va te laisser.
Alors là, vous lui dites rien du tout, vous laissez faire.
Voilà, c'est moi qui le suis quand on arrive dans le couloir. Maintenant, c'est docteur Peyo qui commande.
Ah oui, là, vous ne bougez pas, là ? Hop, il avance.
Ouais.
Avant de rentrer, Peyo était resté bloqué sur la chambre 10 depuis son enclos à l'extérieur. On l'a vu taper sur la fenêtre. On dirait qu'il cherche le malade.
Souvent, on essaie de faire le test, de cacher la personne et de laisser Peyo la retrouver.
Et alors ?
Il retrouve à chaque fois.
Il s'arrête. Chambre 10. Incroyable.
Il monte la chambre.
Ouais. C'est mauvais signe. Hein ?
C'est votre mari, madame, qui est dans cette chambre ?
Je pense qu'il doit le sentir.
Et là, qu'est-ce qu'il fait ?
Il s'est approché de la personne. Il a fait partir toutes les personnes dont il n'a pas choisi la présence, quoi.
Vous avez de la concurrence, hein ?
Peut-être un peu.
Docteur Cécile Baélène, chef de service.
Peyo est considéré comme dans le service comme un collègue.
Et vous, pesez vos mots ?
Et je pèse mes mots. À des moments où nous, on était un petit peu dépourvus parce que les médicaments ne faisaient pas l'effet, que le passage de la psychologue ne faisait pas l'effet non plus, les massages n'apportaient pas de réconfort, on s'est aperçu que le passage de Peyo avait radicalement changé les choses. Moins de médicaments, de benzodiazépines, moins d'anxiété. C'est vraiment un soignant à part entière.
Comment vous l'expliquez, ça ? Vous êtes médecin, donc vous êtes très rationnel.
Dans le service, on accepte maintenant, on n'essaie plus de chercher pourquoi, on accepte le fait que ça marche.
Et des médecins aux aides-soignantes.
Parfois, le patient est plus ou moins serein. C'est la famille qui est autour, qui angoisse. Avec son sabot, il tape dans la porte et il montre que c'est dans cette chambre-là qu'il veut rentrer. C'est inexplicable.
Sans ordre d'assel.
Aucun ordre. Tout seul. Faut le vivre pour le croire. Moi, j'ai eu le cas d'un patient qui refusait de manger depuis quelques jours. Hassen nous a proposé le seau de croquettes de Peyo dans la chambre et le patient a repris l'alimentation. Lorsqu'on en parle, on a les frissons.
Les familles aussi. Très ému.
Ah ouais, c'est beau, hein. Il ressent la douleur, la souffrance des gens.
Peyo vous apaise également, vous,
aussi,
famille.
Aussi. Mon mari est en fin de vie, on vient ici, c'est pas pour rien. C'est un amour de cheval.
Et quoi derrière, alors ? C'est quoi, sixième sens ?
Je trouve pas les mots tellement c'est difficilement explicable. Je me retiens, et puis le docteur aussi, on se retient tous d'utiliser le mot « miracle ». Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Réussir à ouvrir des tiroirs dans le cerveau de personnes Alzheimer, à obtenir des souvenirs, des personnes retrouvant la force de se lever, de marcher à nouveau, des choses qui ne sont malheureusement pas possibles avec le médicament. Voir les soignantes ensuite en pleurs, c'est troublant.
Les talons sillonnent les hôpitaux des quatre coins de France. Jusqu'à quand ? La réponse.
J'ai la chance de compter sur environ 150 soignants et chercheurs. Donc notre but à nous est scientifique. Si on n'arrive pas à démontrer ou à prouver qu'il arrive à détecter tumeurs, cancers, diminuer les morphines, les anxiolytiques chez le patient, je ne vois pas l'intérêt de faire rentrer un équidé dans un établissement de santé. L'idée, c'est pas de sortir un cheval du box et de le mettre dans un établissement de santé. Ça, c'est ridicule. Mais moi, tant que Peyo a cette capacité à améliorer l'envie de se battre et de vivre chez un patient, j'accompagnerai Peyo. Le jour où il n'a plus envie, on arrête et on fait autre chose.
Peyo.
Merci Sandrine. Ça fait toujours le même effet quand on réentend ce reportage. C'est tellement incroyable. Oui, Mathieu Ricard.
C'est émouvant. Alors, ça c'est un cas extrême. Hein, et inexplicable, effectivement. Enfin, inexplicable. C'est dans l'extrême d'un continuum que l'on connaît déjà. Parce qu'on sait, par exemple, dans les prisons, que si l'on donne des animaux de compagnie à des prisonniers, alors au début, il y en a qui ne veulent pas, puis finalement, ils le prennent. Parce qu'ils s'ennuient, eh bien, il y a beaucoup moins de violence, 30% de moins, moins de recours à l'infirmerie. Donc, en gros, les gens vont mieux. Donc, il y a beaucoup d'études sur les animaux de compagnie dans des circonstances difficiles, comme en prison, dans les hôpitaux. C'est pas la première fois. J'avais vu l'histoire similaire d'un chat qui, dans les hôpitaux, allait systématiquement s'asseoir sur la poitrine de quelqu'un qui était tout à fait en fin de vie, les dernières heures. Une sorte de réconfort, de présence. Et c'est sûr, moi j'ai vu ma mère qui a 96 ans et on avait recueilli un tout petit chat. On lui amenait le matin alors qu'elle se réveillait avec des douleurs. On mettait le chat, c'est un enchantement, un grand sourire. Donc il y a de toute façon quelque chose. Mais là, dans ce cas, ce cheval, c'est évidemment extrême.
C'est quelque chose d'exceptionnel. Les animaux nous font du bien, les animaux. Alors maintenant, Mathieu Ricard, le Code civil reconnaît l'animal comme un être doué de sensibilité. On progresse.
C'est pas trop tôt, parce qu'avant, c'était un bien mobilier. C'est-à-dire qu'un cheval, c'était un tabouret qui se déplace. Alors, franchement, faut remonter loin à l'animal-machine pour avoir autant d'obscurantisme. Et non seulement ça, la déclaration de Cambridge, qui a réuni certains des plus grands neuroscientifiques au monde, dont certains que je connais bien, qui sont des spécialistes de la conscience, conscience, ont reconnu que les animaux, non seulement beaucoup d'animaux avaient une conscience, mais qu'ils avaient pu développer la conscience, comme des pigeons ou des perroquets ou des corneilles, avec des moyens différents dans le cerveau que de développement du cortex préfrontal. Mais voilà, c'est une évidence que vous avez des corneilles qui façonnent des crochets, qui peuvent ouvrir des portes et utiliser des outils qu'ils n'utilisent pas dans la nature. J'ai vu récemment un film d'une corneille qui prenait un couvercle et qui faisait de la descente en luge sur un toit plusieurs fois de suite pour s'amuser.
Vous êtes intarissable, Mathieu Ricard. Malheureusement, cette émission se termine. On était ravis de passer ces trois quarts d'heure en votre compagnie. Si vous aviez un message à faire passer ce soir, rien qu'un seul à nos auditeurs, quel serait-il ?
La bienveillance. Pour mieux devenir un meilleur être humain, pour mieux se mettre au service des autres. C'est ce que j'espère modestement faire moi-même et je vous encourage tous.
Et on peut tous le faire, on cherche conseil auprès de ceux qui se sont déjà lancés dans l'aventure. Vous repartez bientôt au Népal.
Par mi-novembre au Népal, oui, tout à fait.
Vous êtes encore là pour quelques temps. Je renvoie Mathieu Ricard à votre livre, Émerveillement, c'est donc aux éditions La Martinière, c'est magnifique. Il y a aussi Contemplation, dont on a parlé avec ses photos en noir et blanc. Et puis donc ce dernier livre qui paraîtra dans quelques jours, Prendre soin de la vie des autres et de la nature, aux éditions L'Iconoclaste, un livre écrit à plusieurs mains. Un immense merci.
Merci à vous.
Et bon retour au Népal le mois prochain. Dans quelques instants, le journal de 19h de Sébastien Paour. Et puis à 19h20, le téléphone sonne qui sera consacré aux nouvelles formes d'action militante en faveur de l'environnement. On s'intéressera plus particulièrement au mouvement Extinction Rébellion qui vient de boucler une quinzaine de manifestations et d'actions dans plusieurs pays. On se demandera s'il s'agit d'une nouvelle forme de désobéissance civile ou pas. On sera avec une activiste de cette organisation, un sociologue. Et on sera aussi avec un désobéissant de toujours, José Bové, appelez-nous au 01 45 24 7000.